à toutes et à tous, auditeurs, auditrices des Radio Vassivière, ici Nini Vijegas. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui place l'humain, l'écoute et les soins au cœur de sa pratique. Il s'agit d'Antoine Lacouturière et il est ostéopathe et sophrologue installé au cœur du Limousin depuis 2015. Après près de 10 ans d'études dans les grands sud-ouest, il a choisi de revenir à ses racines pour y créer un espace d'accompagnement bienveillant. Il est également formateur dans des domaines aussi variés que l'anatomie, le développement de l'enfant ou encore la gestion des émotions en entreprise. Depuis l'automne 2021, Antoine nous embarque dans un projet adorable que j'adore. Il s'agit du podcast Toucher du doigt la santé. On a d'ailleurs fait une première interview. Je vous invite à visiter les sites des radioassir.com pour vous mettre à jour et revenir sur aujourd'hui ces podcasts Toucher du doigt la santé. C'est un espace des réflexions et des rencontres autour du soin, du bien-être et de la santé. Il y invite des professionnels de santé, des sportifs, des artistes et d'autres personnalités inspirantes à partager leurs outils, leurs expériences, leur vision du corps humain. Ensemble, ils explorent les mille et une façons de prendre soin de soi et des autres, dans un esprit de transmission et de prévention. Aujourd'hui, on a un nouveau rendez-vous puisque la 12e saison vient de sortir et on va en parler ensemble, tout comme du projet ambitieux qu'il prépare aujourd'hui, l'ouverture d'un centre des soins pluridisciplinaires en Limousin, plus la nouvelle formation sophro-ostéo. Antoine Lacouturière, bonjour et bienvenue dans l'émission.
Bonjour Nini, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour cette introduction hyper complète.
Je t'en prie. Et je suis hyper ravie vraiment de te revoir, de partager avec toi, d'écouter les nouveaux épisodes et puis surtout cette nouvelle aventure que tu as démarrée aux États-Unis.
Juste de sortir les derniers épisodes du podcast, c'est vrai que c'était une aventure extraordinaire, l'occasion de vivre un rêve d'enfant, de partir là-bas et puis de coupler ça à la rencontre de pros de santé, mais pas que, de gens qui participent à la santé.
Pour bien lancer cette interview et cette rendez-vous et parler de cette saison, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as eu cette envie de partir, d'aller chercher dans des autres horizons, décroiser aussi les regards entre les États-Unis, l'Europe, la France en l'occurrence.
C'est une super question pour débuter l'émission, l'interview ensemble. En fait, je crois que c'est l'aboutissement d'un cheminement. C'est-à-dire que le soin, le bien-être, la santé, ça fait un moment que je suis dedans au quotidien, que j'adore ça. Je suis quelqu'un d'assez passionné, donc quand je commence quelque chose, en règle générale, je me donne à 100%. Et ça fait 10 ans, comme tu le disais en introduction, que j'exerce sur le territoire, pas très loin d'ici, pas très loin du studio d'enregistrement. Et petit à petit, il y a un réseau qui se construit autour de ça. Souvent, dans nos cabinets de soignants, on est quand même assez isolé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une grande partie de la journée, finalement, c'est recevoir des gens et chacun avec ses compétences de distiller nos soins, nos savoir-faire à nos patients. Que ça soit en ostéopathie, en médecine, en kiné, en orthophonie, bref, chacun avec sa compétence. Et on tend de plus en plus à aller vers des prises en soins pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on se rend compte, et c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé, de la HAS, de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, de dire voilà, on sait aujourd'hui que pour une pathologie donnée, quand il y a plusieurs intervenants, on augmente les chances significativement d'avoir des impacts positifs sur la santé des gens. Et c'est assez simple, c'est du bon sens si tu réfléchis bien. Donc ça, c'est la théorie, c'est vrai, sauf que dans nos quotidiens de soignants, quand on voit ces 10, 12, 15, parfois 20, parfois 40 patients pour les médecins généralistes, dans la journée, concrètement, le temps d'échange qui te reste entre pros, il va être très 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 court. Et donc cette envie de rencontrer les gens, pour moi, elle vient de mon quotidien, du quotidien de soignant où tous les jours, je passe du temps avec mes patients et où je me suis rendu compte que l'avis des autres, il avait vraiment enrichi ma pratique. Et ça, ça a commencé dès l'installation. Petit à petit, le projet de faire des podcasts, il est né en me disant « Mais la rencontre, elle est riche. À chaque fois, moi, j'en sors grandi. Mes patients aussi. Mais pourquoi est-ce que je pourrais pas enregistrer ces moments de rencontre avec les autres pros et en faire partager un plus grand nombre ?» Et donc, ça fait maintenant, comme tu le disais, une grosse année et demie. J'ai commencé en France avec des gens qui m'inspirent. Pas toujours avec des gens qui ont des réseaux sociaux, ce qui fait que le podcast se développe lentement, progressivement, mais sûrement et avec des gens de qualité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait un impact super. C'est-à-dire que j'ai des patients qui m'ont dit « Mais voilà, j'ai appris ça. J'ai appris ça, j'ai appris ça. » Et comme c'est des ressources gratuites disponibles en illimité, et ben en fait, ça vient enrichir ma pratique. Et pour répondre à ta question sur la France... j'ai pas eu le sentiment de faire le tour en France en un an parce qu'il y a tellement de choses différentes, mais j'ai assez vite senti en moi, et là c'est assez perso, ce désir de mêler des questionnements existentiels, que ça soit sur les définitions de la santé, qu'est-ce que c'est être en bonne santé, la vie, la mort, sur aussi des questionnements du quotidien, l'argent, la valorisation des soins. Tu vois, ça, c'est un des sujets qui est hyper délicat à aborder parce que tout de suite, ça fait réagir les gens, d'autant plus avec l'actualité aujourd'hui, des lois qui sont votées contre la vie des soignants, bref, sans entrer dans la politique. Et donc les États-Unis, pour moi, c'était un peu le pays de l'entrepreneuriat, le pays de la réussite sportive aussi, tu vois, dans mon passé de sportif de haut niveau. C'est le pays au monde le plus titré au JO de toute l'histoire. Plus de 1000 médailles d'or, c'est juste extraordinaire. Alors tout n'est pas parfait aux États-Unis, mais je suis vraiment parti chercher ça, ce côté dépasser les limites, voir autrement, voir grand, oser faire, et aussi, pour terminer, enthousiasmant. Tu vois, ce que je retiens, c'est que les gens, ils sont contents pour toi. Ça, c'est un truc qui m'a fait du bien, de me dire « Waouh, bravo, tu fais ça, vas-y, c'est trop cool, je suis content pour toi, vas-y, vas-y, je t'encourage. » Voilà, c'était une grande réponse. Daddy, don't daydream again. Just help me to believe and then show me that there's more than the meantime. Antoine, et c'était quoi les actions que tu as dû mener pour justement te permettre aller aux États-Unis, stopper ta vie, aller vivre là-bas, échanger avec les professionnels de la santé là-bas. Est-ce que tu as été soutenu, d'où ça vient aussi l'argent pour aller rencontrer toutes ces personnes-là? Je pense que c'est une question auquel on va revenir, mais on se pose aussi cette question. La première, c'est la trouille. Franchement, j'ai eu la trouille, j'ai eu peur. Avant de partir, je me disais... ça fait plusieurs années que j'avais envie de partir là-bas et je me disais mais non, mais c'est pas le moment, et puis financièrement, et puis mes patients, et puis ma petite loute aussi, parce que dans l'histoire il y a une petite fille de 6 ans, et dire bah c'est partir 3 semaines, est-ce que c'est pas égoïste, la vie de famille, comment ça se passe, tu vois, c'est pas que moi, c'est aussi une famille derrière, et donc le comment, c'est d'abord le courage d'oser le faire dans la partie je vais dire philosophique, et puis dans la partie concrètement matérielle, c'est un investissement. C'est-à-dire que j'ai rien gagné en partant là-bas, j'ai pas gagné d'argent, j'en ai dépensé. Le billet d'avion, ça a un prix, les rencontres, la vie là-bas, elle est plus chère qu'en France, c'est vrai. Par contre, j'ai quand même eu la chance, l'honneur, le privilège, c'est un mélange de tout ça, de rencontrer des gens extraordinaires à travers le podcast. C'est-à-dire que j'ai été hébergé, j'ai été accompagné, plutôt parce qu'héberger, ça ne suffit pas. J'ai été accompagné par des gens qui avaient écouté le podcast depuis les États-Unis et qui m'ont vraiment guidé, si tu veux. Là-bas, je les ai sentis comme des guides sur place et je les remercie d'ailleurs. Alors, la liste est grande, mais je vais remercier Sophie, qui est une des invitées du podcast, Sophie Rouméas, qui nous parlait... des liens entre les constellations de famille, l'hypnose, les héritages, et pas que. Et puis Jennifer Léogier, qui est une future invitée du podcast, mais avec qui il y a eu vraiment une rencontre humaine riche, et qui m'a accompagnée dans ce voyage-là. Voilà.
Je voulais aussi rajouter que tu es venu riche en rencontres, en connaissances et en soins, parce que tu as aussi pu bénéficier de quelques soins, si j'ai bien compris dans les podcasts.
Ouais, alors beaucoup même. En fait, sur l'expérience américaine, mon idée, c'était de ressentir à l'intérieur de moi, dans mon propre corps, dans mon esprit, comment est-ce qu'ils soignaient là-bas. Et donc, j'ai vu une dizaine de thérapeutes différents avec... à chaque fois les mains posées. Tu sais, je suis ostéo, donc je suis très kinesthésique, je prends les gens dans mes bras toute la journée, littéralement, au sens strict du terme. Alors avec beaucoup de bienveillance, de douceur, de connaissance des limites de la relation patient, ok. Mais malgré tout, c'est un métier de contact, c'est un métier de toucher. Et pour moi, il y a toute la partie intellectuelle qu'on peut trouver dans les livres, dans les ouvrages, dans les vidéos, dans les podcasts. Par contre, la manière de toucher, ça, je ne pouvais pas le trouver autrement qu'en le vivant. Et donc, j'ai rencontré cette dizaine de pros différents, des ostéos, des chiro, des rolfers. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas trop en France. C'est une manière de toucher. On va dire que c'est un cousin de l'ostéopathie qui utilise ses mains, de la kiné aussi, parce que les kinés, c'est mes copains. Donc, on met tous ces thérapeutes manuels là. Et d'autres formes de soins moins connues, jusqu'à faire de la poésie avec un artiste extraordinaire aux États-Unis. Le podcast est sorti ce matin, tu vois, donc sur comment est-ce que les mots, ça peut... les mots M-O-T-S, ça peut aider les mots M-A-U-X. Voilà, de vivre un moment d'écriture de poésie avec un artiste. C'est très large comme éventail.
C'est parfait pour boucler ton idée, puisque je voulais revenir au bonus. C'est un nouveau format que tu proposes. Et puis, cette deuxième saison commence par l'impact des mots sur notre corps. Éclairage neurophysiologique, toucher du doigt la santé. C'est les podcasts qui parlent de santé, de bien-être. Et j'ai adoré commencer par cela, puisque j'ai toujours eu une approche très profonde avec les mots. Pourquoi commencer par les mots ?
Eh bien, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, les mots M-O-T-S. En fait, dans l'univers du développement personnel, on dit que les mots, ils ont une vibration, les mots, ils ont un impact. Et mon parcours, il est plutôt scientifique au départ. Donc, quand j'entendais ça les premières fois, moi, ça m'hérissait un peu les poils en disant « c'est ésotérique, c'est perché, ça m'agace ». Et en fait, j'étais aussi de l'autre côté consciente de dire « ben c'est pas un hasard et peut-être qu'il y a une part de vrai là-dedans ». Et donc j'ai cherché ce que disait la littérature scientifique là-dessus et je suis tombé sur une étude extraordinaire, une étude qui a été faite en France par des chercheurs au CNRS à Aix-Marseille qui se sont interrogés sur comment est-ce que le corps physique réagit à un mot. Et leur génie, ça a été d'observer la taille des pupilles. C'est-à-dire, ils se sont dit, tiens, on va regarder un reflet du système nerveux autonome, on va regarder quelque chose qui a aucun... qu'il n'est pas possible de contrôler volontairement la taille des pupilles. Tu vois, quand tu regardes le soleil, ta pupille, elle s'adapte, que tu le veuilles ou non. Et donc, ils ont regardé ça avec des mesures scientifiques et ils ont dit des mots différents. Ils ont dit des mots comme soleil, comme jour, ou des mots comme nuit, comme sombre. Et ils se sont rendus compte que sans bouger la condition lumineuse de la pièce, rien qu'avec la prononciation du mot ou la lecture du mot, la taille de la pupille, elle change. Et je me suis dit, mais waouh, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de... C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on vient justifier le fait de dire, dans nos consultations, parce qu'au départ, c'est dans les consultations, c'était ça ma recherche, de dire, on peut presque parler de toucher verbal. C'est-à-dire que les mots que tu vas déposer dans la consultation, ils vont avoir un impact sur le corps de ton patient. Et si c'est vrai dans une consultation ou dans un cabinet du CNRS, alors j'imagine que c'est vrai à l'école, quand on encourage les enfants, quand on leur dit des choses positives ou l'inverse. Quand on crie sur un enfant, quand on utilise des mots forts, alors on va l'impacter aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément touché.
Cette recherche, ça a été réalisée par le CNRS d'Aix-Marseille.
Oui.
Et par la suite, avec les praticiens que tu as échangés, tu as essayé aussi d'aborder ces sujets, comment on aborde et comment on s'exprime et comment les patients aussi dans son anamnèse, on va parler beaucoup d'anamnèse, donc peut-être on peut définir de quoi il s'agit l'anamnèse, mais comment un patient aussi s'exprime et vous pouvez aussi vous greffer pour venir à comprendre un peu plus de quoi elle parle, ce patient.
Ouais. Et ben l'anamnèse, pour répondre à ta question, c'est l'interrogatoire. C'est-à-dire c'est le moment où on va recueillir les données du patient, on va le questionner sur son histoire, sur l'histoire de la maladie, sur le motif de consultation, et recueillir des éléments qui sont aussi objectifs que possible sur depuis quand vous avez mal, où est-ce que vous avez mal, à quel moment de la journée, dans quelles circonstances, les antécédents médicaux, chirurgicaux, les antécédents éventuellement familiaux, la génétique. Et tout ça, cet ensemble de données qu'on recueille, c'est un art, l'interrogatoire. Hein. L'interrogatoire, ça fait un peu policier, mais c'est l'art de mener cet échange pour recueillir des données. Et tu as raison, je te rejoins, cette sémantique, cette utilisation des mots par les patients, il va y avoir des colorations. On peut retirer énormément d'informations dans la manière dont les patients vont parler de leur pathologie, de leur histoire, de leurs motifs.
Antoine, pourquoi tu as voulu rajouter, bon, il y a plusieurs nouveautés dans cette nouvelle saison, puisque déjà tu vas parler anglais, il y aura des bonus, donc des capsules, des podcasts plus petits qui vont expliquer aussi tes démarches, et puis là par exemple, dans l'occurrence, l'impact des mots sur notre corps. Et pourquoi créer ces formats différents? C'est quoi le but des, on va dire, varier les formats?
Alors, c'est un but d'accessibilité principalement. C'est-à-dire que les podcasts d'une heure quinze, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est des entretiens. Ça permet d'aller loin dans la discussion, comme tu en as l'habitude. En trois minutes, tu as une idée très vague d'un sujet. Quand tu discutes une heure et quart avec quelqu'un et que ce quelqu'un est passionné, eh ben, ça donne un max d'informations et ça donne aussi une autre manière de le percevoir. Moi, j'adore ce format d'entretien parce que au bout d'un certain temps dans l'échange, il y a d'autres éléments qui sortent. Mais dans nos vies, dans nos quotidiens de sursollicité que nous sommes tous, parfois on a juste 10 minutes devant nous et on a quand même envie d'apprendre ou d'éveiller nos consciences sur certains sujets. Et là, les formats bonus, eh ben, l'idée, c'était de faire plus court. Alors en fait, 3 minutes, j'ai pas réussi encore, mais on est sur du 10, 12, 15, il y a plusieurs formats de moins de 20 minutes maintenant. Et je trouve que c'était aussi un challenge pour moi, qui apprécie développer les sujets, de dire, ok, là, t'as 10 minutes, qu'est-ce que t'en fais?
On va parler de l'épisode numéro 12, puisque c'est un épisode assez fort, passionnant, l'approche tissulaire de l'ostéopathie et rencontre des Pierre Tricot. C'était un podcast très fort en émotion. J'ai pleuré même.
Ouais. Lui,
il est incroyable. Est-ce qu'on peut présenter Pierre Tricot pour donner l'eau à la bouche et l'envie à nos auditeurs, nos auditrices d'aller sur leur plateforme d'écoute préférée ou sur le site internet
de Radio Vassivière
aussi, pour écouter Pierre Tricot? Quel personnage, Antoine. Oh là.
Ouais, et ben, c'est, je te rejoins. Alors, j'ai pleuré en écoutant Pierre Tricot, en vivant le podcast avec lui. Ça a été tellement émouvant que j'avais des larmes aux yeux. Et j'ai eu beaucoup de retours comme celui-ci, Nini. Vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui ont manifesté ce côté touchant. Pierre, c'est un monument de l'ostéopathie. Il aime bien dire que c'est un dinosaure, mais que c'est un dinosaure en mouvement. Pour moi, c'est probablement l'être humain qui a le plus participé en France au développement de l'ostéopathie. Ça fait partie de ces gens passionnés qui ont œuvré sur plusieurs dizaines d'années. Hein. Ça fait plus de 50 ans de participation. D'abord bénévolement au départ, dans des associations, dans des accès libres en fait. Son site internet, c'est une manière d'illustrer ça. Il y a une quantité immense de ressources gratuites qu'il a écrites, qu'il a traduites. Donc si je devais le réduire, le synthétiser pour que ça soit court, concret, facile, je dirais que Pierre, c'est quelqu'un en Inde passionné, avec une humilité rare. C'est probablement l'ostéopathe qui connaît le mieux l'ostéopathie. C'est lui qui a traduit l'intégralité des écrits du créateur de l'ostéopathie. Alors on aime ou on n'aime pas Andrew Taylor Steele, on aime ou on n'aime pas ce style, il faut se rappeler que c'est quand même il y a plus d'un siècle. Mais on ne peut pas faire autrement que de dire que Pierre c'est le plus grand contributeur. Et tu vois, je trouve ça rare de rencontrer quelqu'un à ce niveau-là, qui est humble, qui est bourré d'humour, parce qu'il est rigolo, et qui est capable dans une interview de laisser aller ses émotions en disant bah, « ça me touche ». Donc, si vous avez envie de connaître l'histoire de l'ostéopathie, si vous avez envie de faire des liens entre la conscience dans les soins, qu'est-ce que c'est la conscience et comment est-ce qu'on peut rajouter ça, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui a une vision qui va au-delà de l'ostéopathie mais du soin en général, alors je vous invite à écouter Pierre Tricot. I watch you watching the twilight behind the telephone line. Nothing to prove or to assume. Just thinking that your thoughts are different than mine. In my review, I watch you. Antoine, dans chaque chapitre, tu abordes les sujets de la santé, le bien-être. Qu'est-ce que c'est la santé? Eh ben, je
pour toi, après tout ce que tu as fait les deux saisons, quoi. Donc je pense ouais. que là, ouais. ça, on peut écouter l'interview numéro 1 qu'on ouais. a fait. Mais aujourd'hui, après toutes ces rencontres, tous ces moments passionnants ici en France, aux États-Unis, qu'est-ce que c'est la santé pour toi? Ah là là.
C'est génial, mais c'est... je ne sais pas combien de temps j'ai pour répondre. En fait, c'est... c'est une question, tu vois, je la vois avec les 25 invités et j'ai leurs 25 réponses qui résonnent en même temps et que je m'approprie un petit peu. La santé, alors moi j'adore la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être. Voilà, la santé, c'est un état de bien-être complet qui n'est pas seulement dû à l'absence de maladie et c'est un état de bien-être complet sur tous les plans. Et dans les plans, il y a la partie physique. Il y a la partie, je vais dire psychologique, mentale, la partie sociale et relationnelle. Et puis, il y a même une ouverture vers le spirituel. Et donc, c'est cette espèce d'équilibre permanent qui n'est jamais parfaitement juste, mais qui est en cours d'alignement, un petit peu comme nos paramètres physiologiques. Tu vois, ta glycémie, le taux de sucre dans le sang, elle varie un petit peu à chaque fois, elle s'adapte en permanence. La santé, c'est un état d'adaptation par rapport aux conditions. Et je crois que quand tu arrives à t'adapter à ton environnement extérieur, à ce qui se passe à l'intérieur de toi, et à être aligné, peut-être que je rajouterais ça, cette notion d'alignement entre la tête, tes pensées, tes raisonnements, ton cœur, tes pulsions, tes désirs, tes instincts, ton corps au sens instinctif, sensoriel, et puis peut-être une dimension supérieure qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous, que certains appelleront Dieu, que d'autres appelleront une part spirituelle, ou même peut-être simplement une mission, une raison d'être. Tu vois, et quand tout ça s'est aligné, pour moi, c'est un état de santé.
Alors, on va à ces chapitres dont tu réfléchis avant de partir en voyage, en quête du soin, de la notion de soin et de bien-être. Donc, pour ces nouvelles aventures, les soins vus d'ailleurs, rencontres aux USA. Comment tu as été accueilli, Antoine? Et une deuxième question, tu vas nous répondre. Est-ce que c'est énorme le décalage entre la vision du soin et du bien-être ici en France et aux États-Unis?
Alors oui, c'est énorme la différence. Je peux répondre déjà. Je peux répondre à la deuxième question. C'est énorme la différence dans la vision du soin, dans la vision du soin des soignants. États-Unis, France, j'ai perçu une différence vraiment importante. Et pour la première partie, comment j'étais accueilli? Ben, j'ai été accueilli par les feux à Los Angeles. C'est l'époque où, autour de LA, il y a vraiment cette période d'incendie. Je me souviendrai toute ma vie de l'atterrissage au-dessus avec cette vision hyper tragique, hein. C'est hyper difficile. Donc, au-delà de ce côté émotionnel, parce que c'est pas vraiment ça que tu venais chercher dans la question, mais c'est ça qui s'est passé quand même, j'ai été accueilli à la fois par des Français, par des Américains, par des gens qui vivent ensemble, donc vraiment des gens qui sont purement américains et des expatriés, des Français qui vivent là-bas. Et j'ai trouvé ça chaleureux. Alors, il y a probablement un biais, c'est-à-dire que c'est des gens qui connaissaient le podcast, qui me connaissaient pas forcément en vrai, mais j'ai senti un accueil. Hyper chaleureux, enthousiaste, comme on est capable de le faire en Limousin, autour du lac de Vassivière, hein. Il y a pas que là-bas. Par contre, dans les différences peut-être notables, dans la rue, il y a plusieurs personnes dans le voyage qui se sont arrêtées pour me dire « Ah, j'adore la couleur de ta valise !» Et la première fois que ça m'est arrivé, c'est en sortant d'un ascenseur, c'est un homme d'une soixantaine d'années, et je me dis « Mais je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il me dit, si tu veux. » Il s'arrête, il rigole, il me touche presque, tu vois, il se rapproche de moi en disant « Waouh !» Et mon anglais est encore en cours de perfectionnement, et donc au départ, je comprends pas. Je me dis « Attends, il me drague, j'ai raté un truc, j'ai cassé quelque chose. » Non, en fait, il veut juste dire « Ta valise est trop belle. » Ok. Et en fait, ça s'est reproduit plusieurs fois dans le voyage. À des moments où j'étais perdu dans la rue, un peu perdu, je cherchais un peu mon chemin, il y a des gens qui s'arrêtent spontanément avec le smile. Tu vois, vraiment, je peux t'aider ? Et ben ça, tu vois, en fonction d'où tu es en France, je pense que c'est vrai ou pas. C'est-à-dire que sur le plateau, on doit quand même retrouver un peu cet élan de solidarité-là. Peut-être que dans une rue en sortie de métro à Paris, je sais pas si ça fait la même chose, tu vois. Donc il y a eu ce côté très, très enthousiasmant, très chaleureux. Et puis sur la vision du soin, en fait, il y a vraiment une différence colossale, c'est qu'en France, on a la chance, on a le privilège d'avoir la sécurité sociale. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un acquis social dont on ne se rend pas forcément compte, mais aux États-Unis, pour rentrer à l'hôpital, il faut une carte bleue. Tu vois, il y a quand même cette notion de dire, si tu n'as pas d'argent, c'est pas sûr que tu sois soigné, même si tu es en danger de mort. Là où en France, il n'y a pas de question. Les pompiers, que je salue au passage pour leur travail du quotidien, vont t'apporter jusque dans un centre hospitalier et tu vas être pris en charge et ça ne va rien te coûter. Donc, on oublie peut-être la chance qu'on a, on oublie aussi l'investissement de nos soignants. Je pense aux médecins parce qu'en ce moment, ils sont quand même fort sollicités, mais c'est le cas pour toutes les professions, les rééducateurs aussi. Un kiné à 16,13€, c'est un scandale. Voilà, c'est une sage-femme qui bosse de nuit dans un hôpital un jour férié et qui est payée des cacahuètes, c'est un scandale. Donc, il y a cette vraie différence-là aux États-Unis. Un soignant, il a une valeur. Et son soin, eh ben, c'est pas gratuit. Et je trouve ça super. C'est-à-dire, je trouve ça super de dire oui, c'est une vraie valeur ajoutée pour la société. Oui, j'ai une compétence. Ça choque personne qu'on paye un notaire, qu'on paye un avocat, qu'on paye un assureur, qu'on paye... Et j'adore ces professions, j'ai pas de problème avec eux. Ce que je veux dire, c'est que c'est OK pour tout le monde. Un agent immobilier qui vend un bien, il va prendre un pourcentage. C'est acquis. Un médecin, un ostéo, un kiné, un chiro, une sage-femme qui a fait X années d'études, qui arrive à poser un diagnostic, qui t'écoute, qui parfois accueille tes larmes, qui va parfois t'aider sur l'instant, parfois même te guérir, tu vas le payer 10, 15, 20, 30 balles, il change ta vie, c'est normal, ça dure 10 minutes et il envoie 40 dans la journée ou 10 ou 12. Bah non, c'est pas possible en fait. Et ça, tu vois, dans les différences majeures, aux États-Unis, les soignants, l'argent, ça fait partie de leur vie et c'est OK pour tout le monde. Et ça m'a marqué. There's no apologies, just go on. Just go on. There's still so many things I wanna say to you, but go on. Just go on. We're bound by blood that's moving from the moment that we start. From the moment that we start. Pouvons faire écho et continuons à faire écho à l'épisode numéro 16, justement, on parlait de l'argent et les soignants, les prix justes, valorisation des métiers.
Et je trouve que c'est assez sincère de ta part, cette démarche de vouloir aussi aborder ce type de sujet. Pourquoi ne pas en parler de ça, puisque vous habitez avec ça au quotidien?
Oui, je te remercie d'ouvrir le sujet là-dessus. C'est un sujet, il m'a fallu plusieurs mois pour me dire je le fais, je le fais pas, j'en parle pas. Après, le côté un peu réaction à chaud des États-Unis, là, tu vois, c'est un sujet hyper délicat. C'est un sujet hyper délicat en France de parler d'argent en général, je trouve, et particulièrement dans le soin et les soignants, parce qu'il y a cette notion de gratuité, il y a cette notion aussi de passion. Souvent, les soignants sont des gens qui sont en pâte. Alors, il y a des exceptions, hein, bien sûr. Il y a des soignants qui sont là pour le fric et qui sont là pour le business, et c'est OK, comme dans plein de, comme dans toutes les professions du monde, je crois. Mais je pense sincèrement, du fond de mon cœur, que la majorité des soignants, c'est des gens qui sont passionnés par l'être humain et qui ont envie de faire du bien. Et parce qu'ils sont soignants, il y a cette notion de donner, d'être disponible. Et je trouve qu'on tire trop la corde là-dessus, vraiment. C'est-à-dire qu'on, pour être bien dans son exercice, je crois qu'il faut aussi être bien dans sa peau, dans sa santé, dans son équilibre. Et la rémunération, c'est pour moi une façon de valoriser ton travail. Et quand il n'y a pas de valorisation à la hauteur de l'apport que tu as, il y a un décalage. Et ce décalage, il se répercute à un moment ou un autre sur les patients. Donc j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de parler de ça sans juger, sans dire vous êtes tous des gros cons, ou c'est tous des pompes à fric, ou c'est tous des gros connards, tu vois. Enfin, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans un débat stérile où il y a des arguments de moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça. C'était plutôt de dire, est-ce qu'on se rend vraiment compte de l'impact qu'ont les soignants sur le territoire? Est-ce qu'on prend soin d'eux? Et je donne des exemples. Par exemple, un pourboire, c'est OK. Tu laisses un pourboire au resto, le serveur ou la serveuse, elle est sympa, t'as envie, tu laisses un pourboire. Quand est-ce qu'on a laissé un pourboire à un médecin? À un ostéo? À une sage-femme? Tu vois? Et ça fait partie des choses où je me dis, c'est vraiment une vision, un paradigme, ça m'intéresse de le faire évoluer. À ma petite échelle, à moi,